Le texte que nous allons lire pour la méditation d'aujourd'hui se trouve dans 1 Pierre chapitre 3, les versets 13 à 18. Premier épître de Pierre chapitre 3, versets 13 à 18. Au nom de Jésus. Qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour pratiquer le bien? Même si vous avez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler. Mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes. Pour les péchés des humains innocents, il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, savez-vous pourquoi les films produits à Hollywood sur des personnages de fiction, les super-héros que les enfants aiment bien, attire-t-on l'intérêt des grands amateurs du grand écran? Derrière tous ces effets spéciaux et les décors époustouflants que nous voyons dans ces films, les scénaristes ainsi que les réalisateurs de ces films, ils ont compris que l'être humain aujourd'hui a besoin de quelqu'un qui pourrait incarner leur frustration face à des formes d'injustice, quel que soit le domaine. Et dès qu'il y a quelques individus qui osent se lever, qui osent se dresser contre toute forme d'injustice, contre toute forme d'anomalie sociétale, cela a créé une grande admiration chez beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué, il y a de plus en plus d'amateurs de lanceurs d'alerte sur le net, et qui se lancent de façon spontanée. On sent l'esprit de militantisme qui gagne de plus en plus de terrain. Et face à cela, où est-ce que nous, les chrétiens, nous nous situons? Quelle est notre position face à tout cela? Alors ici, regardons le texte, Pierre exhorte les croyants à être passionnés de ce qu'ils croient être juste. Regardez le verset 13. Qui vous fera du mal si vous êtes zélé ou bien si vous êtes passionné? Pierre appelle les croyants à être passionnés de ce qu'ils croient être juste, passionnés de sa foi face à ses détracteurs. Et le terme utilisé par la NBS, NBS, c'est-à-dire la version NBS, est passionné dans le français courant, c'est zélé. C'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait à demi-mesure, la passion. Tout ou rien. Et je regardais le texte grec, et à ma grande surprise, le terme grec auquel les différentes versions ont traduit par passion et zèle, c'est le terme zélotai en grec. Et vous entendez tous dans ce mot, l'écho du nom de zélote, zélotai. Un zélote, c'est en quelque sorte quelqu'un, un extrémiste. Il fait partie d'un parti politique extrémiste juif de l'époque qui avait la haine de l'invasion, pardon, non seulement sur le plan politique des Romains, mais aussi sur l'invasion culturelle grecque, qui avait complètement transformé, façonné la vie quotidienne des Juifs au temps de Jésus. D'ailleurs, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Voilà l'impact de l'invasion culturelle. Ce qui veut dire, quand on dit que c'est un zélote, c'est quelqu'un de passionné, plus qu'un zélé. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour sa patrie. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour une cause qu'il défend. Voire même prêt à utiliser la violence pour défendre ce qu'il croit comme étant juste, puisqu'il est animé par cette passion. De plus, ce terme qui sort de la bouche de Pierre, lui aussi qui est un zélote, rappelons-le, Pierre, c'est un zélote. Et ce n'est pas du tout étonnant d'entendre ce terme dans la bouche de Pierre. Par exemple, nous avons tous vu comment il réagissait à Gethsémané quand les soldats romains étaient venus mettre la main et capturer Jésus. Il n'a pas hésité une minute à couper l'oreille du soldat romain Malcolm. Voilà, c'est un vrai zélote. Mais, et là je mets un grand mais, ce qui est totalement nouveau chez Pierre ici, c'est l'équilibre qu'il a su acquérir au fil du temps. Regardez le verset 15 à 16, et il est dit: Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêt à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre des comptes de l'espérance qui est en vous. Et c'est la suite qui est intéressante. Mais faites-le avec douceur et respect. Un ex-zélote qui parle de douceur et de respect, il y a un problème. Un zélote n'a pas de douceur. Un zélote, lui, il ne va pas chercher midi à 14h, il va tout droit au but. Alors on peut se dire, est-ce que Pierre a changé finalement? S'est-il assagi? Et je dirais oui et non. D'un côté, oui, il a été transformé par le Christ, bien sûr, ce qui lui a permis de dire qu'il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi et dans son engrenage de haine qui ne mène à rien. Et là, ça nous fait rappeler la phrase extraordinaire, pleine de sagesse de Jésus qui a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, Soyez avisés comme les serpents et purs comme les colombes. Voilà le parfait équilibre que Pierre a reçu plus tard. Mais de l'autre côté aussi, cela n'empêche pas Pierre d'être toujours passionné, d'être toujours zélé pour le Christ, de toutes ses forces. Mais cette fois-ci, dans ses convictions, dans ses principes. Et sur ce point-là, Pierre n'a pas bougé d'un iota. Il n'a pas bougé. Donc, nous pouvons reformuler ces explications exégétiques que je viens de dire ceci ci-dessous en ceci. Nous les chrétiens, dans le fond, nous devions tous être des passionnés du Christ. Pas à demi-mesure. Nous devons être zélés dans notre foi, dans nos convictions, et ne pas céder à quelconque compromis que la société et le monde essaient de nous faire mordre. Parce que le compromis, selon certains, éviterait les tribulations et les persécutions. Nous ne négocions pas, même sur un millimètre, dans notre positionnement en matière de foi. Et là, il faut être un zélote, un passionné. Cependant, dans la forme, nous sommes appelés à avoir une capacité à présenter cette position que nous tenons avec une douceur d'une colombe. Et c'est cette tension paradoxale qui nous fait déjà tellement souffrir, dit Pierre. C'est ça la première souffrance. Ce n'est pas d'abord la persécution. C'est cette tension permanente qui nous guette entre la passion et la douceur. Et c'est ça qui nous fait souffrir dans notre foi, En plus, en bonus de la souffrance, des persécutions et des remontrances que nous subissons des gens. Le terme utilisé par Pierre dans le grec ici est apologian. C'est-à-dire, la méthode que nous devrions utiliser, c'est l'apologie. Comment présenter cet équilibre nécessaire? C'est de nous munir de cette apologie. En quoi consiste une apologie? Une apologie, c'est une sorte de plaidoirie comme utilisent les avocats pour défendre son client. Et vu que nous serions toujours dans ce monde, surtout ces temps-ci, acculés par le monde, acculés par la société qui est de plus en plus hostile à l'évangile, nous sommes appelés à être très vigilants. Ne pas tomber dans du sensationnalisme, ni dans une forme de militantisme poussé à l'extrême. Ce n'est pas notre position chrétienne, de tomber dans le sensationnalisme, ni dans le militantisme. Mais comme dit le texte, il faut être prêt à tout moment à répondre à ceux qui souhaitent, nous ne sommes pas des prosélytes, mais nous sommes prêts à tout moment à répondre à ceux qui souhaitent avoir une réponse sur des questions concernant notre foi. Si ton voisin, ta famille, quelqu'un que tu côtoies tous les jours te pose des questions sur le pourquoi de ta foi, tu dois être capable à répondre à tout moment. Voilà ce que Pierre veut nous dire. Tu ne vas pas aller frapper à la porte de ton voisin pour lui dire convertis-toi à ma conviction chrétienne, ce n'est pas du tout cela. Mais être prêt à répondre si on vous pose des questions. Donc nous ne sommes pas là pour être des donneurs de leçons de morale à la société, à qui que ce soit, nous ne sommes pas dans cette positionnement-là. En revanche, nous sommes toujours à pied de guerre et ne pas céder à une guerre que je qualifie d'idéologique. Il est facile, chers amis, de combattre un adversaire visible, mais ce qui est le plus dur, c'est de combattre une idéologie. Notre adversaire, dans ces temps derniers, il a complètement changé de stratégie. À l'époque de Jésus, des apôtres, il a utilisé la persécution. Mais il n'utilise plus, presque plus, sauf dans d'autres régions du monde, la répression physique, mais il gagne plus de terrain sur le plan moral. Il arrive à faire glisser tout doucement dans la mentalité collective du monde et même dans les lois qui ont été votées par les parlements du monde pour faire passer leur idéologie. On le connaît par le mot lobbying. Et je vous assure, il est presque impossible d'éradiquer une idéologie que d'effacer sur une surface de la terre une population armée. Ce que Pierre nous donne comme secret de sa nouvelle réussite, c'est qu'il a accepté de laisser l'épée, il a laissé l'épée, mais de prendre une autre arme, une arme qui est encore plus puissante qu'on ne l'imagine. C'est quoi cette arme? C'est la force tranquille de Dieu qui œuvre dans les cœurs de ses serviteurs. Une force tranquille. Regardez la deuxième partie du verset 16. En ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soit pris de honte. Je reprends le verset 16. En ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Lorsqu'on le dit comme ça, c'est facile à dire. Mais comme je l'ai dit précédemment, la tension entre notre zèle ou passion sur la position que nous tenons, ainsi que la douceur dans la façon nous devrions présenter cette conviction dure comme le fer, est très difficile à vivre quotidiennement. Alors, selon mon humble avis, qui ne tient qu'à moi, La vraie souffrance des hommes et des femmes de Dieu commence dans cette tension permanente. Tellement cette vérité qui nous anime, cette vérité qui nous brûle le cœur et qui fait vibrer nos tripes même, que nous avions du mal à nous contenir, à ne pas tomber dans une polémique, mais plutôt dans une apologie. N'allant pas dans la polémique, mais dans l'apologie. Est-ce que cela signifie alors qu'il faut se taire ou qu'il ne faut pas taper le poing sur la table à un certain moment et laisser faire? Je me réfère à Jésus, à cela. Nous avons tous vu sa fougue, sa passion pour le temple, quand il a renversé les tables des marchands du temple en criant que vous avez transformé la maison de mon père en caverne de brigands. Là, voyons bien qu'il n'a pas mâché ses mots, le Christ. Peut-être vous allez me dire, mais où est la douceur dans cet acte? Où est le respect? Pourquoi il est tombé dans cette colère? Certains pourraient trouver dans cet acte un excès de colère de la part de Jésus. Je dirais, il y a des cas que je qualifierais d'exceptionnels où il fallait aussi prendre des mesures exceptionnelles. Mais dans ces mots durs de Jésus, il n'a pas dérapé dans la haine ni dans l'injure. Il faut souligner qu'il était chez lui, la maison de mon père. Donc, dans la maison de son père, il a les pleins pouvoirs, il a les pleins droits de réclamer ce qui lui appartient. Il n'était pas chez les voisins ou chez quelqu'un, il était chez lui. Et donc, comme toi, chez toi, tu habites dans ta maison, si quelqu'un entre de force, tu as le droit de te défendre et de faire sortir quelqu'un, un inconnu, qui entre chez toi et qui fout tout en l'air. Alors, à nous aussi de demander au Saint-Esprit de nous guider dans nos moments de prise de position, quelles que soient les situations qui se passent dans la société, pour avoir la bonne dose, ce que j'appelle le parfait équilibre entre notre passion et notre douceur. Je me rappelle, je donne un exemple ici pour être plus concret, le pasteur Martin Luther King. Il n'a pas pu se taire face à la justice. Mais comment il l'a fait dans la douceur et le respect, même si ça lui a coûté la vie? Voilà un exemple, mais il y a tant d'autres personnes. Ne tombons pas dans le forme de militantisme et de sensationnalisme comme certains le font aujourd'hui pour défendre une cause pour le climat, mais parfois derrière, la motivation est impure. Soyons comme Martin Luther King, soyons comme Martin Luther. Soyons comme Calvin, soyons comme Zwingli, soyons comme ces hommes de Dieu qui n'a pas eu peur de la persécution, mais qui avait des choses vraiment à dire devant tout le monde. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Amen.